Maintenant, on va écouter Frédéric Alna et Karine Bardari, qui sont consultants chez Océane Consulting et Com Access, et qui travaillent actuellement pour le ministère de la Culture sur le baromètre de l'accessibilité. Ils vont aussi vous parler de recommandations aux bibliothèques par rapport à l'accessibilité numérique.
Je vais introduire la présentation du baromètre de l'accessibilité numérique en lecture publique, qui a été confié cette année à Océane Consulting et Com Access. Frédéric Alna et Karine Bardari ici présents. C'est la quatrième édition de ce baromètre. La dernière a eu lieu en 2019. On essaye de réaliser un baromètre tous les 3 ans à peu près. Comme en 2019, ce baromètre comprend 3 volets. Le premier volet sur les sites et portails de bibliothèques, avec une partie quantitative et une partie qualitative. Un deuxième volet sur les opaques et un troisième sur les ressources numériques. Il est important de noter que ce baromètre porte sur les parcours utilisateurs, ce qui est important, sur les parcours utilisateurs, sur les plateformes de bibliothèques ou de ressources numériques, etc. Et s'arrête au moment où il faut télécharger, où il faut accéder aux documents eux-mêmes, hein, que ce soit des livres numériques ou des ressources numériques. Donc, ce baromètre ne s'intéresse pas à l'accessibilité des contenus, livres numériques ou ressources numériques. C'est vraiment les parcours usagers qui sont importants, en fait, hein, dans ce baromètre, comme pour les précédentes éditions. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de sujets autour de l'accessibilité des contenus, etc. Le baromètre vise à explorer la brique, si vous voulez. Plateforme, portail, etc. Je vais passer tout de suite la parole à Frédéric et à Karine et voilà. Merci.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Je me présente Frédéric Alna. Je laisserai Karine se présenter juste après. Aujourd'hui, on va balayer un petit peu le rappel sur les obligations. Vanessa nous a fait un peu une présentation du cadre juridique, mais là, on va rappeler ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui sur un site web ou un portail de bibliothèque. Ensuite, on va commencer à détailler les premiers résultats du volet 1 du baromètre, puisqu'on a déjà initié en tout cas la partie quantitative sur le volet 1. Et puis, on aura une présentation du début aussi de l'étude qualitative sur le volet 3. Et on fera ensuite une présentation un petit peu des démarches accessibilité à mettre en place dans les bibliothèques, donc les grandes étapes qui peuvent être mises en place aujourd'hui. Donc, je rappelle, Vanessa a parlé de la directive européenne. C'est défini par la norme européenne EN 301-549. Les obligations d'accessibilité numérique, elles existent depuis 2005, comme l'a rappelé Vanessa. Mais on peut dire que c'est la norme européenne et la directive européenne qui a redonné un nouveau souffle, on va dire, à l'accessibilité numérique en France, puisqu'on avait un cadre légal depuis longtemps, mais on va dire, sans pénalité derrière. Donc, s'il n'y a pas de pénalité en France, ça avance pas beaucoup. Donc, la directive européenne a ramené des obligations légales vis-à-vis des services publics et aussi vis-à-vis de certaines organisations privées. Donc, on a plusieurs obligations aujourd'hui sur un service en ligne. En tout cas, on a une obligation d'afficher une mention accessibilité sur la page d'accueil. Donc, on partagera le support. Hein. Il y a les liens derrière ce que c'est une mention d'accessibilité et je le repréciserai juste après. Donc, normalement, sur tous les sites et portails de bibliothèques, on devrait avoir une mention qui précise le niveau d'accessibilité du service numérique. Donc, est-ce que mon service est non conforme? Est-ce qu'il est partiellement conforme ou est-ce qu'il est totalement conforme? Ensuite, on va avoir. Cette mention peut rediriger vers une page web du service ou avoir un lien accessibilité par exemple dans le bas de page de votre site web, qui va renvoyer sur une page qui va contenir une déclaration d'accessibilité. Donc, qu'est-ce qu'une déclaration d'accessibilité? Alors, je fais une tentative. Est-ce que je peux ouvrir le lien? Et surtout, est-ce que je peux vous l'afficher? Hop. Je peux vous l'afficher. Sauf que je ne vois pas. Mais la déclaration d'accessibilité, elle va demander plusieurs choses. C'est déjà de faire un lien vers un schéma pluriannuel. Donc, qu'est-ce qu'un schéma pluriannuel? C'est un peu la politique d'accessibilité numérique de l'établissement public. Qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre et qu'est-ce qu'elle va mettre en œuvre sur les 3 prochaines années, puisqu'un schéma pluriannuel, c'est de 3 ans maximum. Et qu'est-ce qu'elle va mettre en œuvre pour s'assurer de la conformité de ses services, de s'assurer de la formation de ses agents. En fait, c'est l'ensemble de la politique globale d'accessibilité numérique. Donc, on doit avoir un lien dans la déclaration d'accessibilité qui redirige vers ce schéma pluriannuel. Et puis, dans la déclaration d'accessibilité, on doit aussi trouver un plan d'action. Donc, le schéma pluriannuel, il est sur 3 ans. Et on doit trouver un plan d'action annuel qui, là, va détailler vraiment dans le détail ce qu'on va faire, ce qu'on a planifié et les actions qui vont être réalisées dans l'année en cours. Et forcément, à la fin de chaque année, on a un bilan également à produire. Donc, dans la déclaration, je repréciserai un petit peu tout ce qu'on attend de trouver dans une déclaration d'accessibilité. Donc, normalement, c'est un état de conformité, c'est-à-dire le résultat d'un audit d'accessibilité avec un taux de conformité, avec une date à laquelle elle a été réalisée, à laquelle l'audit a été réalisé, pardon. La liste des non-conformités, un moyen de contact accessible, puisque si jamais des personnes en situation de handicap consultent le site web et n'arrivent pas à faire certaines actions, ils doivent pouvoir contacter le service de façon accessible. Et puis, un lien vers le défenseur des droits. Si jamais il n'obtient pas de réponse justement à ces questions, il a le droit de saisir le défenseur des droits pour avoir des réponses de l'établissement. Donc ça, on reprécise un peu tous ces éléments-là parce que c'est ce qu'on devrait trouver aujourd'hui sur les sites et portails des bibliothèques. Et vous avez compris que, vu la forme que j'utilise, c'est pas tout à fait ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc je rappelle en détail ce qu'est un état de conformité, donc la mention qui doit se trouver sur la page d'accueil du service. Donc on est en conformité totale si tous les critères de contrôle du RG2A sont respectés. Donc ça, c'est compliqué à obtenir, c'est pas infaisable, mais c'est compliqué à obtenir et surtout compliqué à maintenir, puisqu'on sait qu'un niveau d'accessibilité s'obtient et se maintient. La conformité partielle, si c'est au moins 50% des critères de contrôle du RG2A sont respectés. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus facilement atteignable, en tout cas dans des délais qui sont raisonnables. Et c'est non conforme si on est en dessous de moins de 50% ou si on n'a pas encore réalisé d'audit. Donc aujourd'hui, on va dire que cette mention accessibilité, cette déclaration d'accessibilité, elle devrait être disponible partout, puisqu'on peut la publier dès aujourd'hui, dès demain, en disant qu'on n'a pas encore fait d'audit d'accessibilité qui va être planifié à une certaine date et que pour l'instant, le service est non conforme. L'obligation légale, dans un premier temps, il est de déclarer son niveau de conformité. Donc ça, je l'ai rappelé tout à l'heure, un signalement des contenus non accessibles et la possibilité de saisir le défenseur des droits si jamais la personne n'obtient pas ce dont il a besoin. Je rappelle une autre petite chose au niveau de la validité d'une déclaration d'accessibilité. Une déclaration d'accessibilité dans le RG2A, elle est valide 3 ans. 3 ans après sa publication. Sauf si, entre-temps, il y a eu une nouvelle version du RG2A qui est sortie. Et si une nouvelle version du RG2A sort, l'établissement a 18 mois pour mettre à jour sa déclaration. Et en dernier, c'est le premier point que j'avais dans la liste des 3, c'est que si jamais le service a une déclaration d'accessibilité et qu'il y a une refonte majeure, une modification substantielle de son site web, forcément, on doit refaire une déclaration d'accessibilité. On va donner plein d'infos, hein. On prend toutes les questions à la fin, puisque je suppose qu'il va y en avoir quelques-unes. Alors, je rappelle l'analyse quantitative du volet 1. On doit un objectif, hein, c'est de vérifier la conformité du site. Donc, on va vérifier si les sites web ont une mention accessibilité. Donc, ça, c'est une nouveauté de la quatrième version du baromètre, hein, puisque c'est une nouveauté du RG2A dans sa version 4. On va vérifier la publication de la déclaration d'accessibilité et sa validité. Je précise bien « et sa validité », les éléments que je vous ai présentés juste avant. Et on va vérifier l'accessibilité des moyens de contact, puisqu'on demande à ce qu'il y ait un moyen de contact, et on va vérifier est-ce qu'ils sont accessibles. On évalue la présence de solutions d'aide à la navigation, si jamais les bibliothèques ont installé des outils d'aide à la navigation. Et puis, on procède à une analyse automatique du niveau d'accessibilité via l'outil Tanaguru. L'idée, c'est de vérifier est-ce que les éléments qui sont vérifiables automatiquement aujourd'hui par des outils attestent d'un certain niveau d'accessibilité ou pas sur la plateforme. Donc, je rappelle le périmètre. On a un périmètre de 132 bibliothèques, dont 120 qui sont municipales et intercommunales, 10 bibliothèques départementales et 2 bibliothèques nationales qui sont la BNF et la BPI. Donc, ça, c'est ce que je vous ai rappelé rapidement tout à l'heure, mais je ne vais pas le détailler ici, mais ce sera dans les slides. Hein, c'est pour montrer tous les points de contrôle qu'on applique aujourd'hui dans l'analyse du baromètre pour vérifier la validité d'une déclaration d'accessibilité. Donc, les premiers résultats, ça va être l'affichage de la mention de conformité au RG2A sur la page d'accueil. Donc, sur 132 sites, on a deux mentions. Une qui dit que le site est partiellement conforme et une qui dit que le site est non conforme. Donc là, on voit que la marge de progression, elle est énorme. C'est-à-dire que, voilà, donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce premier chiffre, en tout cas. Et on en discutera tout à l'heure, hein, je propose, vous aurez sûrement des questions. Mais ça, c'est assez difficile à comprendre, puisque justement sur la deuxième chose qu'on va évaluer, c'est la présence d'une page politique d'accessibilité. Donc c'est une page accessibilité numérique sur les sites et portails qui montre que depuis 2018, entre le dernier baromètre et celui-ci, il y a quand même une progression, puisqu'on avait une politique d'accessibilité qui était à 17% en 2018. Et aujourd'hui, on arrive jusqu'à 28%. Donc, il y a une belle progression dans le baromètre sur ces deux indicateurs. Donc, on a rajouté en plus ces pages d'accessibilité physique, puisqu'on voit qu'il y a certains sites qui ont une page dédiée à l'accessibilité physique. Mais là, on voit une belle progression entre les deux. Mais pourtant, dans les faits, quand on regarde le respect des obligations légales, on ne trouve pas forcément de choses visibles aujourd'hui, en tout cas dans cet échantillon de 132 sites. Si on analyse la présence d'une déclaration d'accessibilité, donc en 2019, on avait un seul site sur l'ensemble de l'échantillon, donc c'était à peu près un échantillon égal hein, d'environ 130 sites. Il n'y en avait qu'un seul à l'époque, on en a 10 aujourd'hui en 2022, donc ça progresse aussi beaucoup puisque c'est x10, mais en même temps à l'échelle des 132, ça ne fait pas beaucoup. Donc, on voit que sur les deux premiers éléments de l'obligation légale, il y en a un qui est présent sur deux sites et ensuite, on en a un deuxième qui est la présence de la déclaration d'accessibilité sur 10 sites. Et si on va encore un cran plus loin, c'est-à-dire que si je vais vérifier dans mes 10 déclarations d'accessibilité combien sont valides, eh bien, j'en ai pas du tout. J'ai aucune déclaration d'accessibilité valide. Pourquoi ? Puisque j'en ai que deux qui ont été publiées ou qui sont encore valides du fait de leur date de déclaration, c'est-à-dire que moins de 3 ans ou 18 mois après la nouvelle version du RG2A. Et puis les autres, c'est qu'elles ne sont pas forcément valides à cause de manquements sur, par exemple, la date de l'audit, de la liste des déclarations, de la liste des non-conformités, et ainsi de suite. Donc, sur les 132 sites, en fait, il n'y a pas une seule déclaration de conformité, de valide, entre guillemets. Si on passe sur l'analyse quantitative, notamment sur celle des dispositifs de contact, donc normalement un moyen de contact donné à des personnes en situation de handicap pour contacter les bibliothèques. Donc là, on voit que c'est plutôt une bonne chose, puisque sur les 10 sites qui ont une déclaration d'accessibilité, il y en a 8 qui ont une solution accessible de contact. Donc je rappelle ce qui est une solution accessible pour contacter un site web ou un portail, c'est une adresse mail et ou un formulaire de contact, mais un formulaire de contact qui respecte lui-même les normes d'accessibilité, puisque s'il n'est pas accessible, la personne ne pourra pas vous contacter. Donc, et là, on voit qu'il y a deux services qui aujourd'hui ont une déclaration avec un service non accessible. C'est pas de contact du tout dédié dans la déclaration d'accessibilité, ou alors un formulaire de contact qui est lui-même non accessible. Donc sur les... Je vais ensuite passer à l'analyse automatique. Donc je rappelle, on va donner des scores de conformité sur l'analyse quantitative, qualitative, pardon. Ces tests, même si vous arrivez à 100% sur un test automatique, ça ne veut pas dire que votre service est conforme. Ça veut dire que vous êtes capable de prendre en compte les tests qui sont vérifiables automatiquement. Donc aujourd'hui, les tests automatiques d'accessibilité ne traitent que 20 à 30% des critères du RG2A. Donc même si vous êtes à 100% sur ce périmètre-là, c'est-à-dire que vous avez fait un cinquième du chemin et encore. Donc on ne peut pas se reposer que sur les tests automatiques. Donc dans l'outil Tanagogo Engine, il y a environ 380 tests qui sont effectués. Alors il faut faire attention, les 380 tests ne sont pas des tests du RG2A, c'est des sous-tests du RG2A. Donc c'est pour ça que normalement ça correspond à environ 70 à 80 tests du RG2A. Et petite différence, hein, c'est que les autres années, l'outil Tanaguru était disponible uniquement sur une plateforme web. Aujourd'hui, il est disponible sur des outils, des extensions web, donc beaucoup plus facile à utiliser, à maîtriser par des gens qui sont peut-être moins techniques dans les bibliothèques. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser l'outil pour vérifier les livrables qu'on vous donne. Donc ça, on le rappellera aussi en fin de présentation. Donc là, on a juxtaposé les résultats de 2019 et les résultats de 2022, mais ils ne sont pas forcément comparables puisque l'outil a fortement évolué entre les deux versions du baromètre. Donc je ne vais pas forcément commenter le fait que ce soit moins conforme ou pas. Ce que je voudrais juste préciser, c'est qu'en fait, on avait très peu de sites avec un score de conformité automatique supérieur à 70% en 2019. Et c'est toujours le cas en 2022. Et si on regarde un peu plus dans le détail, on voit que c'est toujours les mêmes éditeurs ou intégrateurs qui sortent des sites aujourd'hui qui ont un niveau de conformité automatique plutôt bon. Donc ce n'est pas une question que ce soit pas faisable, c'est une question que ce n'est pas forcément pris en compte aujourd'hui par les intégrateurs des solutions ou les développeurs des solutions. Donc on a mis un deuxième indicateur, puisque celui-ci est présent aujourd'hui dans Tanaguru, dans la nouvelle version de Tanaguru, c'est que là on va comparer le nombre d'anomalies. Cette fois-ci, on ne vérifie pas juste un taux de conformité, mais un nombre d'anomalies. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a seulement 27 sites sur les 132 aujourd'hui qui ont moins de 40 anomalies dans leur site web. Donc on tombe même à 11 sites si on a moins de 20 anomalies. Et il y a quand même aujourd'hui 35 sites qui ont plus d'une centaine d'anomalies sur leur service. Donc à la différence d'un taux de conformité, c'est que je peux avoir un très bon taux de conformité en disant j'ai 99% de conformité, mais j'ai un critère qui va être invalidé une fois, 10 fois ou 100 fois. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose pour un utilisateur de rencontrer une seule anomalie sur un site web ou de rencontrer 100 fois la même anomalie. Donc c'est pour ça que ça nous semblait intéressant de mettre ce nombre d'occurrences d'anomalies sur les sites web. Donc si on prend les sites qui ont aujourd'hui, il y a 3 sites qui ont un score supérieur à 71%. Il y a un site d'une bibliothèque départementale, un site d'agglomération et un site de médiathèque. Donc on voit, on peut avoir un beau taux de conformité, ce que je disais tout à l'heure, mais pourtant avoir beaucoup d'anomalies. Donc c'est vraiment à pondérer entre les deux, entre le taux et le nombre d'anomalies. Donc, sur la partie qualitative du volet 1, là, on va juste rappeler les objectifs. On ne va pas donner les premiers résultats, mais juste pour vous rappeler un petit peu, puisque Vanessa l'a dit, on se base sur un parcours utilisateur sur l'analyse. Donc, ce n'est pas tout à fait une mesure, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque les obligations légales, c'est d'être au plus près du RG2A, voire des WCAG, les normes internationales sur le sujet. Et nous, on va plutôt vérifier est-ce que les utilisateurs sont capables de réaliser ce pourquoi ils viennent sur un site de médiathèque ou de bibliothèque, c'est-à-dire réserver un ouvrage, voire le télécharger s'il est disponible en ligne. Donc l'objectif du volet 1, c'est d'évaluer certains aspects du niveau d'accessibilité des sites web, de promouvoir les bonnes pratiques, puisque l'idée n'est pas de pointer que des défauts, mais de donner des solutions aussi pour pouvoir corriger ces défauts. Et puis justement de mettre en exergue les points positifs qu'on peut trouver dans les sites qu'on va analyser. Donc aujourd'hui, le volet 1, l'analyse qualitative, elle va être réalisée sur 7 sites, dont 2 intègrent la solution PNB. Et la ressource PNB devra exister dans plusieurs formats adaptés, donc gros caractères, braille ou livre audio. Donc si je prends l'analyse sur ces 7 sites, on va faire toujours une analyse automatique avec l'outil Tanaguru. On va repérer le nombre d'anomalies et le score. On va faire un rapport d'analyse justement de ces éléments-là. Et puis, on va évaluer les anomalies détectées sur un critère de criticité qui va être appliqué. Donc, typiquement, si j'ai des défauts de contraste dans un site web, ça ne va pas tout à fait avoir le même poids sur la note finale que quelque chose qui n'est pas du tout accessible au clavier et qui peut provoquer ce que nous, on appelle des éléments critiques et bloquer un utilisateur dans son parcours. Et quand on dit bloquer, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il ne peut pas réserver un ouvrage ou il ne peut pas le télécharger. Donc, le parcours utilisateur, je vais le résumer, hein, et là, il est en détail, mais on se connecte à un service web, on recherche un ouvrage. Donc, dans le cadre de l'étude, on va avoir un ou deux ouvrages de référence pour l'ensemble des services. On vérifie dans les résultats de recherche qu'on est capable de trouver l'ouvrage. Cet ouvrage-là n'est pas disponible à l'emprunt et l'utilisateur souhaite le réserver. Donc, au moment où il souhaite le réserver, il va se connecter et réserver l'ouvrage. Donc, ce qui est en gras à l'écran, c'est qu'il y a 2 options possibles. C'est que si c'est une ressource, on va dire physique, c'est la réservation. Et si jamais c'est une ressource numérique, au lieu de la réservation, il va vouloir télécharger la ressource. Donc, ce que précisait aussi Vanessa tout à l'heure, c'est que l'étude va s'arrêter à ce niveau-là. Et dans la partie du volet 1, on ne s'intéresse pas, entre guillemets, à l'accessibilité de la ressource elle-même. C'est bien la notion de parcours pour arriver jusqu'à la ressource. Ensuite, on ajoute 2 éléments à cette recherche. C'est on consulte la page plan du site pour trouver une page dédiée aux informations relatives à la bibliothèque, donc notamment les informations sur les heures d'ouverture de la bibliothèque. Et puis, on va juste consulter sur le site web une actualité et vérifier le niveau d'accessibilité d'une actualité. Donc, qu'est-ce qu'on analyse aujourd'hui sur cette analyse qualitative? On va vérifier plusieurs choses. C'est la conformité des éléments d'interface. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être très proche du RG2A. Donc, typiquement, est-ce que les pages ont un titre? Est-ce qu'elles sont structurées correctement? Est-ce que les formulaires ont des étiquettes? Donc, ça, c'est vraiment des notions de base de l'accessibilité. Ensuite, on va vérifier la présence et la pertinence de certaines fonctionnalités. C'est-à-dire, est-ce que je trouve les horaires? Est-ce que je trouve une actualité littéraire? Est-ce que je trouve un champ de recherche? Alors, j'espère que je trouve un champ de recherche, c'est le minimum. Un champ de recherche qui est présent sur toutes les pages. Et puis, on va vérifier aussi la tolérance d'erreurs du moteur de recherche. Alors, pourquoi? Forcément, j'ai des personnes dyslexiques, j'ai des personnes malentendantes, j'ai des personnes aveugles qui peuvent mal maîtriser le français écrit et notamment l'orthographe. Donc, plus votre moteur de recherche a une tolérance à l'erreur, plus l'utilisateur a une facilité à trouver les ouvrages. Et puis, on a un troisième principe qui va être l'accessibilité et l'utilisabilité. Donc, le premier principe, c'est le premier que vous devriez tous retenir, c'est la simplicité. plus on propose des services simples d'usage sur le web, plus on est sûr que nos utilisateurs arriveront au bout des parcours. Ça paraît bête à dire, mais parfois, on se retrouve avec des bibliothèques très, très complexes. La notion de reproductibilité, c'est-à-dire que je peux avoir des défauts d'accessibilité dans un site web, mais si j'ai des moyens de les contourner et des moyens stables de les contourner, ben je peux regagner des points aussi un petit peu dans l'étude. Typiquement, je navigue au clavier sur un site web et je ne peux naviguer qu'au clavier. Et si j'utilise que la tabulation pour naviguer, je peux me retrouver bloqué complètement aujourd'hui dans ma navigation. Mais par exemple, si je passe sur le plan du site de la bibliothèque, ben je peux trouver un accès peut-être plus rapide aux pages que je cherche et cette fois-ci trouver un moyen de contournement d'accéder à l'information. Ensuite, on a un vrai focus sur l'accessibilité des lecteurs d'écran et ensuite l'accessibilité des utilisateurs au clavier. Donc, je passe très rapidement. C'est aussi dans notre... ici dans le détail dans les slides et qui n'est pas forcément très lisible pour vous, mais c'est un petit peu le détail de l'analyse sur ces trois grands principes, c'est les points de contrôle qu'on effectue nous sur l'analyse qualitative du volet 1. Et notez toutes vos questions puisque vous aurez le droit de toutes les poser après.
Bonjour, donc moi je suis Karine Bardari. Je vais vous présenter les résultats préliminaires de l'étude qualitative des sites de ressources numériques. D'abord la méthodologie de test. Mince. Donc le volet numéro 3, donc les ressources numériques, a pour but d'inciter progressivement les éditeurs de ressources numériques à rendre accessibles les plateformes et les modalités d'accès vers leurs ressources. Donc cette année, on a 10 ressources numériques qui vont être analysées, qui sont listées à l'écran. Donc je ne vais pas toutes les relire, je vous laisse le faire, avec notamment un focus sur PNB, sur les applications de lecture Aldico et Baobab, qui sera effectué à la fin du volet 3. Mince, je suis allée trop vite. Ah oui, c'est vrai. L'analyse qualitative des ressources va être assez similaire à ce que Frédéric vous a présenté tout à l'heure. Donc, j'ai une tâche plutôt simple. On va également se focaliser sur un accès utilisateur aux ressources, sur la faisabilité d'un scénario par un utilisateur. Donc, on va tester un certain nombre de pages qui vont être les pages d'accueil, la page d'authentification, la page de recherche, simple ou avancée, la page de résultats de recherche, et l'affichage d'une notice, donc d'une ressource, et la consultation, la possibilité de consulter ce document. J'y arriverai. Le principe étant le même, donc un utilisateur se connecte sur une plateforme de ressources numériques. Il va se connecter, il va donc chercher une ressource particulière, donc qui est différente en fonction de chaque site testé, bien évidemment, puisque les sujets sont très différents en fonction des ressources. Il va donc essayer d'aller chercher la ressource et il va vérifier s'il peut accéder à la ressource. Et donc, le même principe que tout à l'heure dans le volet 1, nous ne testons pas l'accessibilité des ressources, juste la possibilité de la consulter. On a également les trois mêmes principes que pour le volet numéro 1, c'est-à-dire la vérification de la conformité des éléments d'interface, la présence et la pertinence de certaines fonctionnalités, l'accessibilité et l'usabilité des ressources. Je vous passe également les tableaux qui ne doivent pas être très lisibles non plus pour vous. C'est exactement le même principe que sur le premier volet. Donc actuellement, on a analysé 4 ressources sur les 10 ressources qui le seront. Ces 4 ressources avaient déjà été analysées en 2018. Et donc, les résultats qu'on vous propose sur cette slide, donc récapitule la moyenne des résultats qui avaient été obtenus en 2018, donc la moyenne sur les 10 ressources qui avaient été analysées à l'époque, et puis les 4 ressources qui ont été analysées cette année, pour le moment, avec les résultats, donc en termes d'éléments d'interface, donc la première barre en bleu. Ensuite, l'accès au parcours, hein, donc par exemple la connexion, la recherche, la facilité d'accès à une ressource. Donc c'est la barre orange. Et ensuite, on a donc la troisième barre qui est la barre grise, pas très contrastée, désolé, qui est la possibilité de naviguer, par exemple, avec un lecteur d'écran ou avec simplement un clavier. Et donc, on se rend compte, au vu de ces premiers résultats, donc, qui ne sont pas encore complets, comme vous avez pu le constater, qu'il y a une réelle amélioration sur certaines ressources numériques, notamment en termes d'éléments d'interface, c'est-à-dire que pour deux particulièrement, deux des 4 ressources testées, les contrastes ont été particulièrement soignés. On a des structures de pages qui sont cohérentes, on a une tabulation qui est assez simple, des focus, donc le focus, c'est quand vous naviguez avec votre touche tabulation, est-ce que vous voyez où vous êtes ou pas, ce qui peut être important si vous naviguez uniquement avec le clavier. Donc ces points-là ont été particulièrement soignés sur certaines des ressources. Également, les interfaces de connexion qui deviennent de plus en plus accessibles. La recherche, le moteur de recherche, ainsi que la flexibilité du moteur de recherche, ce que disait tout à l'heure Frédéric, est-ce que je peux saisir ma ressource avec une faute d'orthographe et est-ce que le système va la trouver ou pas. On a des autocomplétions qui se font. Donc l'autocomplétion, c'est quand le système complète par lui-même, vous commencez à saisir un titre, et le système complète par lui-même le titre parce qu'il le connaît. Donc ça fonctionne plutôt bien, sauf pour une des applications. En revanche, on a encore quelques soucis d'utilisabilité, c'est-à-dire qu'on peut soigner plein de choses. Si on a, par exemple, un bouton de connexion, un bouton qui ne fonctionne pas, qui n'est pas lisible par un lecteur d'écran ou qui n'est pas accessible au clavier, l'utilisateur ne va pas pouvoir accéder aux informations. Et donc, c'est encore des choses qui se produisent notamment deux des ressources où, à la fin, de toute façon, l'utilisateur de lecteur d'écran ne pourra rien faire parce qu'il ne pourra même pas se connecter. En revanche, sur deux des 4 applications, la navigation au clavier est presque correcte, mis à part un petit point, mais globalement, l'utilisateur s'en sortira. Et la navigation au lecteur d'écran est tout à fait possible, ce qui fait que, globalement, on arrive à des résultats qui sont plutôt positifs pour ces deux ressources. Il faudra évidemment confirmer cela avec les autres ressources qui vont être testées dans un futur très proche. Je te repasse la main.
Merci. Donc on refait un focus un petit peu sur ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui dans une démarche d'accessibilité dans une bibliothèque, notamment autour de ce qui est un cahier des charges quand vous faites une sollicitation auprès d'un prestataire pour un nouveau service. Donc la première chose, il ne suffit pas de mettre une petite ligne dans votre cahier des charges qui dit que mon service devrait être conforme au RG2A. Pourquoi tout à l'heure j'ai entendu Alexandre, si je ne m'abuse, dire que certains prestataires disent qu'ils font du triple A, voire du quadruple A, voire du quintuple A, ce qui n'existe pas. C'est que vous pouvez demander tout ce que vous voulez à vos prestataires, ils vous le diront toujours dans la réponse au cahier des charges. Dans le service qui vous livrera, ce sera autre chose. Donc il n'y a qu'une chose à faire, c'est de vérifier. C'est que vous ne pouvez pas entièrement faire confiance à votre prestataire. Et pourquoi ? Alors, ce n'est pas parce qu'il ne faut pas faire confiance au prestataire, c'est que si ce n'est pas vérifié par personne, ce ne sera pas vérifié par lui et ce ne sera pas vérifié par vous. Donc, vous avez beau mettre tout ce que vous voulez dans un cahier des charges, si ce n'est pas vérifié, ce ne sera pas fait. Surtout si personne ne vérifie, puisque le prestataire aura l'habitude que ce n'est pas vérifié, donc ce ne sera pas fait. Donc il faut surtout avoir des moyens de contrôle et vérifier les capacités du prestataire à prendre en compte l'accessibilité. Donc le mieux, c'est encore dans vos demandes et vos sollicitations auprès du prestataire, c'est de leur demander déjà des références. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai donné les éléments de contrôle pour vérifier la validité d'un site web aujourd'hui. Est-ce que j'ai une mention accessibilité ? Est-ce que j'ai une déclaration d'accessibilité ? Et dans la déclaration d'accessibilité, quel est le niveau d'accessibilité déclaré ? Faire attention aux autodéclarations. Je rappelle que le RG2A autorise les autodéclarations, c'est-à-dire que le prestataire pourrait faire lui-même l'audit d'accessibilité, ce qui est très fortement décommandé, puisque l'auto-évaluation est toujours meilleure que l'évaluation par un tiers. Donc, faire attention à ça. Après, on est conscient que faire contrôler l'accessibilité d'un site a un coût, et a un coût qui peut aussi dépasser certains moyens de certaines organisations. Donc, à mettre en regard, en tout cas, avec les services fournis. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est surtout de disséminer les éléments relatifs à l'accessibilité tout au long du document. C'est-à-dire que si vous faites un appel d'offres ou une sollicitation auprès d'un prestataire, ce n'est pas juste une mention au RG2A, c'est de préciser que vous voulez un site conforme au RG2A, mais que vous prévoyez une phase de recette aussi qui intègre les notions d'accessibilité. Et peut-être qu'il y aura un contrôle par un service tiers du niveau de conformité de ce service-là. Je rappelle que l'État aujourd'hui aide les services publics dans leur ensemble à la mise en œuvre de l'accessibilité et peuvent prendre en charge une partie des coûts liés à la mise en conformité des services numériques. Donc se rapprocher notamment... du FIPHFP, si je ne dis pas de bêtises, sur ses moyens de financement. Et la demande sur les éléments de réponse standardisés, c'est peut-être de mutualiser aussi entre vous ce qu'on avait commencé avec le ministère de la Culture, de trouver des moyens de standardiser vos appels d'offres pour que vous puissiez aussi comparer les offres, pas seulement vous en tant qu'entité, mais vous en tant que ensemble d'entités pour essayer de mutualiser un peu la connaissance sur l'accessibilité. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut intégrer dans un cahier des charges, c'est notamment le cadre légal, puisque théoriquement, vous pourriez faire aussi reporter une partie de la responsabilité du cadre légal sur votre prestataire. N'oublions pas qu'un prestataire a une obligation de vous informer du cadre légal. C'est à lui de vous dire que vous devriez aussi, si vous l'avez oublié, que vous devriez respecter le RG2A. Donc le respect du RG2A, la conformité du site au RG2A en vigueur et surtout la démarche d'accessibilité engagée dès les premières étapes de la conception du site. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? L'accessibilité numérique, elle se vérifie pas en fin de projet. Si vous la vérifiez en fin de projet, vous êtes à peu près sûr que vous n'aurez jamais un site accessible. Mais elle va se vérifier au moment de la conception, au moment où on définit le besoin du site web. Notamment, on l'a dit tout à l'heure, un moteur de recherche capable de tolérer l'erreur. C'est pas à la fin qu'on va vérifier si le moteur de recherche est capable de le faire. C'est même dès le départ, on doit intégrer comme un besoin dans son moteur de recherche de tolérer les erreurs. Que la charte graphique respecte les normes du RG2A. Je rappelle, dans le RG2A, il y a des normes qui sont purement graphiques, il y a des normes qui sont purement techniques et il y a des normes qui sont purement éditoriales. Donc, de vérifier que la conception technique soit conforme. Donc ça, souvent, les éditeurs ou les intégrateurs ont des plateformes de démonstration. Donc, ils devraient être capables de vous montrer ce qu'ils sont capables de faire en accessibilité. Donc ça, c'est une des choses que vous pouvez demander. Et ensuite, la dernière, je l'ai dit, c'est sur la partie rédactionnelle. Ça, c'est plus à vous que ça comment s'adresse. C'est que vous serez aussi responsable d'une partie de l'accessibilité du site. C'est-à-dire que tous les contenus que vous rajouterez dans votre plateforme qui vous a été livrée par votre prestataire devront être intégrés de façon accessible. Donc, on rappelle dans le cahier des charges comment vous piloterez le projet, puisque vous pilotez le projet de votre côté, et comment vous vérifierez donc à minima les notions d'accessibilité dans le cadre du projet. Je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle dans les normes internationales les quick checks, c'est juste comment on peut vérifier rapidement 10 petits critères d'accessibilité. Et rien que ça vous permet, sans connaissance avancée d'accessibilité numérique, de vérifier vous-même quelques points quand on vous livre un projet numérique pour savoir s'il est conforme ou non conforme. Et donc, comment vous recetterez la prestation accessibilité numérique et surtout, qu'est-ce que vous donnerez à votre prestataire à un moment donné quand il vous fera des livrables? C'est comment vous vérifiez et comment vous revenez vers votre prestataire. Je rappelle également qu'on peut tout à fait mettre dans un cahier des charges et dans un appel d'offres public une notion de qualité des livrables avec des pénalités, comme vous avez peut-être l'habitude de le faire sur les pénalités de délai, mais on peut tout à fait aussi le faire sur des pénalités de qualité, c'est-à-dire l'écart qu'il y aura à la fin du projet entre les normes du RG2A et le résultat final. Donc, ce qu'on peut vérifier, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais l'expérience accessibilité numérique de votre prestataire. On peut lui demander aussi la réalisation d'une maquette, parce qu'on peut avoir un prestataire qui n'a pas forcément d'expérience, mais qui a envie de le faire et qui est capable de vous prouver qu'il sera capable de le faire. Donc, un petit moyen de prouver sa compétence sur un petit projet. Et puis, comment lui-même prend en compte la question d'accessibilité numérique sur ses projets, parce que je rappelle qu'un éditeur, théoriquement, devrait avoir un schéma pluriannuel, il devrait avoir une mention de conformité sur son site web, et il devrait avoir une déclaration d'accessibilité pleinement conforme, parce qu'il s'adresse à des services publics, donc il devrait être lui-même exemplaire. Et puis, les critères à intégrer, c'est tout ce qu'on a rappelé là, mais vous pouvez le noter noir sur blanc dans votre appel d'offres. C'est comment seront notés tous ces critères vis-à-vis de l'accessibilité. Et je rappelle, c'est compliqué encore aujourd'hui parce qu'on ne peut pas, en tant que... Comment service public aujourd'hui met une note qui va être une note bloquante sur le RG2A, parce que si vous faites ça, vous risquez de ne pas avoir de candidat à votre réponse à appel d'offres. Puisque si je fais une trop forte exigence sur l'accessibilité et si j'ai aucun prestataire qui rentre dans les clous, je ne pourrais pas fournir de service du tout. Donc on est encore obligé de jouer aujourd'hui sur prendre peut-être le meilleur d'entre eux, mais qui n'est pas forcément à la hauteur aujourd'hui des exigences d'accessibilité. Et puis, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on voit qu'on est capable de faire aujourd'hui des tests automatiques avec des outils open source, donc qui n'ont pas forcément de coûts. Et ça n'a ni des coûts en termes d'investissement sur des outils d'automatisation, mais ni en termes de réalisation, puisque passer un outil automatique sur un livrable qu'on vous fait, alors par contre, c'est un livrable qui est forcément une page web. Mais ça prend quelques secondes et en quelques secondes, vous êtes capable de pressentir quand même d'un niveau d'accessibilité. Donc pour le graphisme, ça demande un peu plus d'effort, mais on vérifie les contrastes de la charte graphique qui est en train d'être posée par le prestataire. Et pour le code, c'est d'utiliser deux outils, un qui est le validateur W3C et d'autres qui est le Tanaguro Engine, c'est celui qui est utilisé dans le baromètre, mais vous en avez d'autres également que vous pouvez utiliser. Donc, c'est des outils gratuits, n'hésitez pas. Et après, théoriquement, on fait la recette, puisque dans l'obligation légale d'accessibilité, vous devez produire une déclaration d'accessibilité avec un taux de conformité. Et pour ça, c'est un audit. Donc, idéalement, l'audit, il faut le réaliser et l'intégrer dans la prestation en précisant à votre prestataire que vous réaliserez un audit en fin de prestation pour valider le niveau d'accessibilité fourni. Voilà. Désolé pour ce rythme soutenu. Et donc, je pense qu'on ouvre les questions si vous en avez. Il y a une question.
Bonjour Hélène, je travaille à la médiathèque de Sèvres. Vous avez mentionné un organisme auprès duquel on pouvait faire une demande de subvention. Vous l'avez passé très très vite, si vous pouviez juste revenir là-dessus.
Le FIPHFP, le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique, si je ne dis pas de bêtises. Et je pense que c'est auprès d'eux, mais je pense qu'on reviendra avec Vanessa pour essayer de communiquer. Et on le fera dans le baromètre, de donner beaucoup plus d'indications que j'en ai donné aujourd'hui. Mais donc, il y a des aides sur les audits, il y a des aides sur la mise en accessibilité de solutions et il y a des aides sur l'accompagnement accessibilité, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qui ont été renforcées cette année, si je ne dis pas de bêtises, mais qui existent normalement depuis 4 ou 5 ans, je crois.
Oui, bonjour. Mélanie Le Torec de la BM de Lyon. J'avais deux questions. La première, en début d'intervention, vous avez évoqué le fait de produire un bilan chaque année. Est-ce que ce bilan, il faut le publier ?
Oui.
Et donc, il faut le publier sur la page...
Alors, ce que je peux faire, je vais vous montrer un exemple... Pourquoi ça ne marche pas ? Ah oui. Alors désolé, je vais me tordre pour essayer de... J'arriverai jamais, je vois rien. Attendez, je vais me lever. Alors, je vais aller juste sur le site web de la Direction interministérielle du numérique et juste pour vous montrer où on doit trouver les infos et comment on les trouve. Donc sur la page d'accueil du site web, souvent, c'est que je vais aller voir en bas de page, dans le pied de page. Et en fait, ici, je trouve un lien qui dit « accessibilité totalement conforme ». Donc ça, c'est la présence de la mention « accessibilité ». Si je clique dessus, j'arrive sur une page « accessibilité » qui va contenir la déclaration d'accessibilité. Dans cette déclaration d'accessibilité, j'ai un lien vers le schéma pluriannuel de la Direction interministérielle du numérique. Et j'ai les deux plans d'action qui ont été réalisés. Et là, je ne sais pas, je ne le connais pas par cœur, mais normalement, dans le deuxième plan d'action, je dois trouver le bilan de l'année 2020, puisque c'est le plan d'action 2021.
J'avais cru comprendre que c'était deux choses différentes. Du coup, c'est la même chose, le bilan.
En fait, il est dans votre plan d'action, normalement, de l'année. Vous avez le bilan de l'année précédente.
Et ma deuxième question était pour Madame Badari. Quand vous nous avez présenté les résultats partiels en fait, d'analyse des ressources numériques, elles ne sont pas détaillées, elles sont anonymisées. Il me semble qu'il y a plusieurs années, on avait déjà eu la même présentation anonymisée. Est-ce que c'est à l'issue de l'analyse des ressources numériques, la publication des références exactes de niveau d'accessibilité des ressources sera publiée ? Est-ce qu'on saura quelle ressource est plus ou moins accessible ?
Oui, là, pour le moment, étant donné qu'on a analysé que 4 ressources, on n'a pas voulu focaliser l'attention sur certaines ressources plutôt que d'autres. Donc, c'est pour cette raison qu'on a choisi d'anonymiser. Mais dans le rapport final, les résultats seront nominatifs. Pas de souci.
Bonjour, Christophe Vigneron de la médiathèque départementale des Deux-Sèvres. Merci pour vos présentations. Ma question, je vais pousser un peu plus loin que la question précédente. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être des noms de structures positives, hein, qui ont respecté les normes de bonne façon, comme certaines médiathèques ou certaines ressources numériques ?
Non. Non, aujourd'hui, sur le volet 1, le comment tout est anonymisé, c'est bien ça, Vanessa ? Oui, donc c'est sur la partie qualitative qu'on pourra donner plus d'infos, mais au moment de la publication, pareil, du baromètre. Ce qu'on est obligé de faire pour ça, parce qu'on est, il y a un temps pour la réalisation de l'étude, en fait, et si on donne des résultats trop tôt, en fait, on voit qu'il y a certains qui continuent à travailler pendant qu'on commence à analyser. Donc, à un moment donné, on est obligé de mettre une date et de lancer les analyses sur tous les sites. Voilà, on ne veut pas favoriser, normalement, Ce qu'on tient à dire, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté en fait dans le baromètre. Donc théoriquement, on ne devrait pas voir des choses être corrigées dans la précipitation au moment du baromètre. Le dernier date d'il y a 3 ans maintenant, ou 4 ans. Voilà, théoriquement, tout le monde a le temps de travailler. Théoriquement, il faudrait plutôt travailler juste après le baromètre, puisque les choses sont encore fraîches et les infos pertinentes, plutôt que de travailler 4 ans après. Voilà. Mais c'est juste une question de timing et pour mettre tout le monde à peu près sur le même pied d'égalité.
Je voulais revenir sur la mention des normes d'accessibilité sur le cahier des charges. Du coup, vous aviez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas non plus trop en demander par risque de n'avoir personne qui se présente. Mais par contre, est-ce qu'on peut, par exemple... inclure dans le cahier des charges la notion de développement des normes d'accessibilité sur une durée ?
Alors oui, sauf qu'il faut faire attention à une chose, c'est que... Alors moi, je tiens à rappeler que l'accessibilité a un coût, quoi qu'il arrive. Vous avez des experts qui vous disent que ça ne coûte rien si c'est pris en compte dès le départ. C'est pas vrai. C'est pas vrai, puisque il faut contrôler. Donc rien que le contrôle a forcément un coût, et quand vous contrôlez, il faut corriger. Donc tout ça, ça a un coût. Et surtout, si vous mettez des exigences d'accessibilité à vos prestataires, vos prestataires, ils vont les inclure dans leurs prestations, donc il y aura un coût forcément. Ce qu'il faut, je veux dire, c'est que ça peut pas être excluant à un moment donné. Si dans votre cahier des charges, vous dites soit vous êtes capable de respecter le double A, soit vous n'êtes pas capable, là-dessus, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de prestats à y aller. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elles, je ne pense pas qu'elles doivent être progressives, mais en tout cas, on peut tout à fait se fixer des objectifs, puisque c'est ça un plan d'action aussi, hein, c'est des objectifs à la publication du site et des objectifs à court terme. Mais rendre un service numérique accessible est beaucoup plus cher que de construire un service numérique accessible, ça c'est sûr. Corriger est toujours plus cher que de faire accessible. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ceux qui vous disent... voilà, c'est pas forcément terrible pour l'instant, mais on corrigera plus tard. Souvent, le plus tard, c'est jamais. Voilà. Donc, il y a des choses très simples. Hein, je le rappelle, les easy checks du W3C. Ça, pareil, on pourra peut-être l'ajouter dans la présentation pour que vous ayez les 10 points de contrôle de base à faire sur un site. Mais c'est vraiment très, très simple à mettre en œuvre, très simple à faire, sans connaissance technique. Et ça, ça vous donne déjà un très bon indicateur sur le niveau d'accessibilité d'une ressource. C'est en partie ce qu'on utilise dans le baromètre. Oui, question.
Bonjour, Tiffaine Duchesnois du Syndicat national de l'édition. Est-ce que vous pourriez revenir, enfin vous avez rapidement évoqué la partie qualitative de l'étude,
oui.
Avec la diversité des ressources, braille, vous avez mentionné braille, livre audio... Est-ce que vous pourriez juste revenir un peu sur les différentes évaluations que vous allez faire ?
Alors, c'est pas un critère d'évaluation, ça, c'est qu'on a juste cherché à avoir des ressources qui étaient présentes dans plusieurs formats. D'accord. On va pas évaluer comment l'offre de la lecture adaptée au sein du baromètre. C'est pas l'objectif. Là, on se focalise vraiment sur l'accessibilité du moyen d'accès aux ressources.
Mais pas dans PNB, en règle générale.
Alors, oui, tout à fait. Oui, dans PNB, alors on l'intègre dans deux volets. PNB, c'est que dans le volet sur les sites et portails des bibliothèques, on refait le même parcours utilisateur sur la capacité à télécharger cette fois-ci nos ressources. Et on fait un focus dans le volet 3, c'est-à-dire la capacité à accéder à cette ressource via Baobab ou Aldico sur le volet 3.
Et est-ce que vous allez aussi étudier le signalement, enfin les métadonnées de signalement? Oui.
Alors justement, c'est pour ça qu'on l'intègre. C'est plutôt aujourd'hui, c'est dans un résultat de recherche. Je vais avoir trois fois le même ouvrage, mais un en gros caractère, un en lecture audio et un en livre classique. Et c'est surtout la mise en avant de ces éléments-là et peut-être la capacité à filtrer. C'est-à-dire, je veux lancer une recherche, mais je veux que les livres en gros caractères, par exemple, puisque le reste, je ne peux pas les consulter. Donc ça va plutôt être encore une question de fonctionnalité dans le volet 1 qu'une question d'offre ou de capacité à trouver les ouvrages adaptés dans un premier temps.
Merci.
C'est vraiment focalisé sur l'accessibilité des plateformes, hein, des moyens d'accès, en tout cas le baromètre, quoi. Bien, merci. Ah, si. Ah.
La date de fin et la date à laquelle on va pouvoir consulter ce nouveau baromètre.
Le baromètre doit être terminé pour la fin novembre. Donc les rapports seront publiés vers la fin novembre, début décembre. Voilà, donc. Donc vous pourrez les consulter à ce moment-là.
Oui, oui, effectivement, oui, les résultats, enfin le baromètre sera terminé fin novembre, début décembre. On a un comité de pilotage début décembre et donc on verra après pour la mise en ligne des résultats. Soit en fin d'année, soit en tout début 2023, mais bien sûr, on va diffuser les résultats. Je précise que le baromètre donc est réalisé, bien sûr, par Ocean Consulting et Com Access. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Et donc, il est réalisé, bien sûr, avec en lien avec Réseau Carrel. Que je n'ai pas indiqué au début, mais bien sûr, Réseau Carrel est membre du comité de pilotage, ainsi que la FULBI, la Fédération des utilisateurs de logiciels de bibliothèque, la BPI, bien sûr, la Bibliothèque nationale de France, l'Association des bibliothécaires de France, l'Association Valentin Haoui, et je crois qu'on est bon, je n'ai oublié personne. J'en profite également sur les financements pour les bibliothèques territoriales. La DGD, le concours particulier de la DGD, peut également financer la refonte, bien sûr, de vos services numériques, mais également la réalisation d'audits, le financement de formation, de la formation des collègues, des équipes en bibliothèque. Et voilà, donc le soutien financier peut également passer par ce biais-là. Et je voulais vous rappeler qu'on avait réalisé il y a 3 ans, donc avec Karine Bardari, une plaquette qui fait 4 pages, que j'ai imprimée et que vous trouvez également en ligne sur le site du ministère de la Culture. Service du livre et de la lecture, donc on pourra redonner le lien. Donc les principaux résultats du précédent baromètre, ainsi que quelques bonnes pratiques pour réaliser quelques tests rapides, comme ce qu'a évoqué Frédéric. Donc il y a les liens, enfin je pense que les outils sont toujours valables, je pense. Et bien sûr, encore une fois, le rappel que la DGD peut financer la mise en accessibilité de vos services numériques. Voilà, donc je les mets à disposition et voilà. Merci.
Euh, Ben voilà, on va pouvoir clôturer cette partie juridique et sur le baromètre de l'accessibilité en remerciant les intervenants, Frédéric, Karine et Vanessa. On m'a suggéré aussi de vous conseiller de faire attention si vous utilisez Tanaguru de recourir à un dresseur de Pokémon. C'est très difficile à maîtriser. D'ailleurs, il y a Aldico, n'est pas facile à maîtriser non plus. Enfin, quoique, il est très accessible. Je disais pour faire la transition, parce que maintenant, on va accueillir les intervenants plus techniques, hein, on va dire, et qui vont nous parler de LCP, de Thorium Reader, d'Aldico et d'autres Pokémon techniques qui permettent des lectures accessibles.